France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Faut-il craindre un embrasement régional, une déstabilisation profonde et durable d'un Moyen-Orient déjà soumis à de très fortes turbulences? Israël a mené une série de frappes en Iran ces dernières heures. L'opération est toujours en cours. Téhéran parle d'une déclaration de guerre. Les appels à la désescalade se multiplient à travers le monde. Emmanuel Macron a tenu ce matin un conseil de défense extraordinaire. On ira à Jérusalem, en Iran, aux États-Unis. Dans les prochaines minutes, on tentera de faire le point aussi sur le programme nucléaire iranien qui est au cœur des inquiétudes israéliennes, et puis des bourses qui dévissent et des cours du pétrole en hausse. On parlera aussi des conséquences économiques de cette opération. Le 13-14 nous emmènera également à Nice. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Nice, où s'achève le sommet des Nations Unies sur les océans, avec des avancées concernant la haute mer.
Oui, le traité sur la haute mer entrera en vigueur au plus tard en janvier 2026. Des règles de copropriétaires pour les deux tiers de la surface des océans, annonce de la France ce matin.
Merci Sandy, à tout à l'heure en direct de Nice. Notre invité à 13h30 est Arlette Testiller, cette rescapée de la rafle du Veldiv, s'est battue toute sa vie pour que le couple qui l'a cachée pendant la guerre soit reconnu juste parmi les nations. Et la cérémonie aura bien lieu la semaine prochaine à Vendôme. À suivre également les stand-upers en quête de gloire. Ils sont très nombreux, ces jeunes humoristes, à monter sur scène tous les soirs. Bayonne qui espère se qualifier pour la phase finale du top 14 de rugby. Le match est ce soir contre Clermont. Et les supporters, écoutez, sont derrière leur club.
Tout le monde est prêt avec toutes les banderoles qui sont accrochées déjà sur les bâtiments. Donc ouais, ça va être sympa, ouais.
Donc nous, on est pur bayonnais en plus. Donc c'est oui, quelque chose qui va fédérer tout le monde. Hein.
Voilà, reportage à Bayonne dans les prochaines minutes. Et puis le DJ Moziman au micro de Frédéric Pommier dans C'est une chanson. Voilà pour le programme, c'est parti pour le 13-14.
France Inter.
C'est donc dans la nuit que l'opération a été lancée, opération intitulée Rise on Lion, le lion dressé, destiné selon les autorités israéliennes à éliminer la menace que fait peser l'Iran. 200 avions de combat, une centaine de cibles, dont des sites nucléaires, on va y revenir. Et une nuit de terreur pour les habitants de Téhéran. Au moins 95 personnes ont été blessées, selon les autorités iraniennes, dont des femmes, des enfants, dans des explosions qui ont touché des immeubles résidentiels. Écoutez le témoignage de cette Iranienne qui vit dans la capitale, réveillée cette nuit par le bruit des frappes, témoignage anonyme pour des raisons de sécurité, sa voix a été modifiée.
Tôt le matin, c'était vers 3h30, on s'est réveillé dans la nuit par une chaîne de détonation. L'une ou deux étaient très fortes, très très proches, qui nous a secoué, qui nous a carrément secoué. L'immeuble a tremblé. C'était au moment où on a sursauté avec mon mari, le noir total. Le courant a été coupé pendant une quarantaine de minutes. On a été privé d'électricité ici. Et c'était tellement près, c'était énorme. Après environ 45 minutes, le courant a été rétabli. On a vu sur les réseaux sociaux et puis on a su que c'est près de chez nous. J'ai ouvert le balcon et j'ai senti l'odeur de la poudre à canon. Ah, c'était, je tremble encore, hein. J'ai toujours des palpitations. Moi qui est née dans la guerre, j'étais bébé, j'ai pas connu les bruits, les bombardements, j'ai aucun souvenir. Mais là, je vais finir dans la guerre, je crois. C'est le destin, je sais pas, j'espère pas.
Voilà la crainte de la guerre et de l'embrasement régional. Bonjour Siavosh Ghazi.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Téhéran pour France Inter. Alors, ce n'est pas la première fois qu'Israël cible des sites iraniens depuis le 7 octobre. Mais là, on est dans une autre ampleur. L'opération israélienne, d'ailleurs, n'est pas terminée. L'Iran, aujourd'hui, parle d'une déclaration de guerre.
Absolument, c'est le terme employé par le ministre iranien des Affaires étrangères. Il y a eu donc depuis une heure d'autres frappes qui ont visé le site de Natanz, qui a été frappé à deux reprises dans la nuit. La ville de Tabriz, dans le nord-ouest de l'Iran, a également été touchée dans une nouvelle frappe. Et puis aussi la ville de Shiraz, dans le centre du pays. Donc trois nouvelles cibles touchées de nouveau dans une nouvelle phase donc d'opération menée par Israël. On a appris aussi la mort dans les frappes d'hier soir d'un autre haut commandant des gardiens de la Révolution, le général Amir Hajizadeh, qui était responsable du programme balistique de l'Iran et donc des opérations qui avaient été lancées contre Israël. Il était le chef de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution et donc on vient d'apprendre et avoir la confirmation qu'il a été tué en même temps que plusieurs donc autres commandants donc de cette force qui avait joué un rôle très important dans l'attaque dans les attaques qui avaient été menées contre Israël.
Merci Siavosh Ghazi, vous êtes le correspondant de France Inter à Téhéran. Avant de prendre la direction de Jérusalem, je voudrais qu'on s'arrête un instant avec vous sur cette série de frappes. Bonjour Christian Chéneau.
Bonjour.
De la rédaction internationale de France Inter, Israël se félicite d'une opération couronnée de succès par d'une centaine de cibles dont des sites nucléaires. Siavosh Ghazi le disait à l'instant, des sites en activité d'ailleurs ont été touchés. De quel site précisément parle-t-on ?
Il s'agit du site de Natanz, qui est un des plus grands sites nucléaires iraniens avec des milliers de centrifugeuses. Un site qui est à la fois en surface et souterrain. Alors les Israéliens affirment avoir touché en profondeur ce site, donc des salles de commandement et d'électricité. Les Iraniens viennent de déclarer qu'en fait il a été touché en surface. Pour l'instant, on va évaluer les dégâts, il faudra d'autres sources, d'autres confirmations. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Israéliens ont voulu viser ce site de Natanz, qui est, encore une fois, un site clé pour ce programme nucléaire iranien. Alors, ils n'ont pas touché apparemment le site de Fordo, qui est le deuxième grand site nucléaire iranien, où là encore, c'est un site enterré à plus de 80 mètres sous terre, sous des tonnes de granit.
Alors, des sites visés, mais aussi des responsables du régime, notre correspondant à Téhéran le rappelait. Est-ce qu'on peut dire clairement qu'il y a la volonté de déstabiliser le régime, Christian Chéneau ?
Évidemment, quand vous frappez, vous liquidez tout l'état-major de l'armée, des gardiens de la Révolution, vous avez le conseiller du guide pour la sécurité, Ali Shamkhani, qui a été grièvement blessé. Quand vous visez des sites de rampes de lancement de missiles et que vous liquidez des savants nucléaires, il y en a à peu près une demi-douzaine, plus ces sites nucléaires, en tout cas celui de Natanz, oui, il y a une volonté d'Israël de porter un coup très fort, peut-être fatal. En tout cas, d'autres bombardements sont peut-être prévus. Apparemment, Natanz a été frappé deux fois. Donc oui, on est dans un bras de fer là, qui monte d'un cran. Toute la question maintenant de savoir, c'est la réponse iranienne. Elle a commencé avec des drones, mais elle ne va pas s'arrêter là. Est-ce qu'il y aura des lancements de missiles, d'autres, sous d'autres formes ? Là, c'est encore le grand point d'interrogation.
Alors justement, Christian, aussitôt après le début de cette série de frappes, Israël a annoncé fermer son espace aérien, se préparer une riposte. Des drones tirés depuis l'Iran ont été interceptés. Jérusalem, où vous vous trouvez, bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour.
Est en vigilance rouge, même si ces dernières heures, on sent, Thibault, que le niveau d'alerte a été légèrement revu à la baisse.
Oui, le niveau d'alerte est en effet descendu d'un cran en milieu de matinée. La population n'est plus obligée de rester à proximité d'un abri comme cette nuit. Alors il y a des passants dans les rues, il y a du monde dans les supermarchés, ce qui laisse supposer que la centaine de drones que vous avez évoqués, cette centaine de drones envoyés en début de matinée a été interceptée. À noter que les Américains et les Jordaniens ont participé avec leurs avions et leur défense antiaérienne à la protection du territoire israélien. Vigilance cependant pour la suite, cette nuée de drones pourrait être un prélude destiné à épuiser les défenses antiaériennes avant l'envoi de missiles. Et c'est pour cette raison que les écoles restent fermées, que le Premier ministre Benjamin Netanyahou est dans un endroit sécurisé et que les hôpitaux ont déplacé une partie de leurs services dans les sous-sols et les parkings.
Et on sent bien que les dernières heures ont été synonymes d'inquiétude pour les habitants de Jérusalem. Écoutez, c'est ce qu'a constaté Alice Moreno dans les rues de la ville.
La nuit a été mouvementée pour Annie, ponctuée d'aller-retour dans les escaliers.
Je suis allée me coucher à 2h, j'ai eu le temps de m'endormir profondément. À 3h, j'ai entendu la sirène, j'étais réveillée par la sirène.
De nationalité suédoise, elle vit en Israël depuis ses 13 ans. Elle a pris cette alerte particulièrement au sérieux.
Mon fils nous dit, attends, on est en train de bombarder Téhéran. Alors on dit, ok, c'est les Iraniens, on descend en bas.
Opposante au gouvernement Netanyahou, elle dénonce l'offensive israélienne sur Gaza. Mais quand il s'agit de l'Iran, elle est beaucoup plus partagée.
Mais l'impression que j'ai, sans m'y connaître, c'est qu'on peut pas, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un Iran nucléaire à côté de nous. Je ne sais pas quelle est la solution.
Résultat, ce matin, les rues de Jérusalem sont très peu fréquentées.
I'm a local rabbi. Je suis un rabbin du quartier ici à Jérusalem. Habituellement, c'est une ville très animée, avec beaucoup de cafés, en particulier le vendredi avant Shabbat. Maintenant, c'est beaucoup moins fréquenté.
Now it's much less busy.
Loin de céder à la panique, les habitants demeurent prudents. Ils scrutent leur téléphone et se tiennent à proximité des abris souterrains. À Jérusalem, Alice Moreno pour France Inter.
Alors Thibault Lefebvre, on vous retrouve correspondant à Jérusalem. La vigilance est toujours de mise, car l'opération israélienne est toujours en cours.
Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas une opération, mais c'est une véritable guerre qui pourrait durer encore un moment, selon le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Des médias iraniens et libanais évoquent depuis tout à l'heure cette nouvelle vague de frappes qui touche les villes de Natanz et de Kermanshah, attaque par les airs donc, mais l'on l'a appris tout à l'heure par une communication de l'armée. Israël a aussi frappé à partir du sol avec des drones cachés depuis plusieurs jours sur le territoire iranien. Ils ont été activés cette nuit et ils auraient permis de détruire notamment des défenses anti-aérienne. Alors se pose désormais la question de l'impact de l'attaque israélienne et surtout de la capacité de réponse iranienne. Je vous propose d'écouter Kobi Mikael, il est chercheur à l'Institut de la Sécurité Nationale Israélien et proche de l'armée.
If the Iranians will not comply, I assume that,
si les Iraniens ne plient pas, je suis convaincu qu'Israël va continuer à attaquer pour détruire toutes les infrastructures nucléaires.
The Iranians are very confused. I think that
les Iraniens sont très désorientés. Au final, nous sommes au début de la fin du régime iranien.
Un scénario à la libanaise, donc quand le Hezbollah s'était écroulé il y a moins d'un an, en quelques semaines, c'est aujourd'hui clairement l'objectif assumé de l'armée israélienne.
Merci Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. Christian Chéneau, je me tourne à nouveau vers vous parce qu'il faut peut-être revenir sur les raisons, sur le déclenchement de cette série de frappes. Israël assure que l'Iran n'était pas loin d'un point de non-retour vers la bombe atomique, alors que l'Agence internationale de l'énergie atomique de son côté dit bah non, on n'a pas constaté de hausse des niveaux de radiation sur les sites d'enrichissement. Où est-ce qu'en est vraiment le nucléaire iranien ?
Ah bah, il a progressé depuis plusieurs années, depuis la fin de l'accord de Vienne, hein, qui a été déchiré par Trump en 2018. Alors c'est vrai que le rapport de l'AIEA hier était quand même alarmiste, parce que il y avait le nombre de kilos d'enrichissement réussi par les Iraniens était passé de 200 à 400, enrichissement à 60%. L'AIEA a trouvé aussi des traces à 83% sur plusieurs sites. Donc ça a provoqué, comment dire, une escalade. Les Iraniens ont répliqué immédiatement en annonçant la construction d'un nouveau site et la mise en route de centrifugeuses de sixième génération. Et donc là, pour les Israéliens, c'était la ligne qui était franchie, la ligne rouge qui était franchie, et ça a donné prétexte finalement à l'attaque qui était prévue depuis des mois, voire des années. C'est-à-dire que les plans militaires israéliens sont dans les tiroirs depuis longtemps. Donc là, il a suffi d'appuyer sur le bouton, avec finalement l'assentiment des Américains, qui disent qu'ils n'ont pas participé, qu'ils étaient au courant quelques heures avant. En fait, il faut rappeler que les Américains sont très présents sur zone, notamment à Bahreïn, 5e flotte, ou encore en Qatar, c'est le SANCOM. Donc les Américains étaient dans la boucle. D'ailleurs, Donald Trump vient de déclarer qu'il faut absolument maintenant que les Iraniens négocient, sinon il ne restera plus rien à négocier.
On va y revenir dans un instant, justement, la réaction américaine, parce qu'elle est essentielle. Un mot de la diplomatie, est-ce que ça veut dire qu'elle n'est plus possible aujourd'hui, une fois cette ligne franchie?
Encore une fois, tout va dépendre de la réponse iranienne. Ils vont faire l'état des dégâts. Est-ce que le programme nucléaire est toujours en vie ou pas? Je rappelle que le site de Fordo n'a pas été touché, qui est aussi un des sites clés pour l'Iran. Et donc, il y a toujours cette possibilité des négociations. Il y avait cette session à Oman qui était prévue dimanche. En fonction de ça, les Iraniens vont en tout cas peser un petit peu les avantages et les inconvénients, sachant qu'évidemment, ils sont sous une énorme pression. En même temps, ils considèrent qu'ils sont en légitime défense, qu'ils ont été agressés. Donc, Israël part d'une attaque préventive. Donc il y aura une riposte, mais est-ce qu'ils vont aller plus loin? Il faut savoir que pour le régime iranien, la seule chose qui compte, c'est sa survie.
Merci Christian Chéneau, de la rédaction internationale. Tout cela, évidemment, suscite beaucoup d'inquiétudes hein, dans les capitales de la région et puis du monde entier. Je cite par exemple Moscou, qui parle de frappes inacceptables, Tokyo, qui condamne l'escalade, Pékin, qui se dit prêt à jouer un rôle constructif pour faire redescendre les tensions. Côté européen, on appelle à la retenue. Les dirigeants français, britanniques, allemands se sont entretenus au téléphone. Emmanuel Macron tenait tout à l'heure à 11h un conseil de défense et de sécurité nationale. Il fera un point, le président français, en fin de journée, c'est ce que vient d'indiquer l'Elysée. Et qu'en est-il de Washington? On va vous retrouver tout de suite. Bonjour Loïc Loury.
Bonjour.
Vous êtes l'un des correspondants de France Inter aux États-Unis. Alors très vite, la Maison Blanche a dit qu'elle n'était pas impliquée, hein, que Donald Trump n'avait juste été informé en amont, qu'il avait tenté de dissuader ce projet. Aujourd'hui, le président américain dit à la fois que les attaques pourraient être encore plus brutales, attaques à venir, et qu'il est toujours possible toutefois d'arrêter le massacre.
Oui, absolument, mais franchement, c'est un Donald Trump qui s'exprime, qui est au pied du mur, qui est très certainement embarrassé. Il ne voulait pas de ces frappes contre l'Iran. On le sait, le président l'avait dit dans les heures qui ont précédé cette opération, parce que, assurait-il, ça ferait tout capoter. Référence aux négociations que vous évoquiez il y a quelques instants, qu'il mène depuis des semaines avec Téhéran sur son programme nucléaire. Un sixième round de discussion, d'ailleurs, est en principe prévu ce week-end à Mascate. L'avenir dira ce qu'il en est. Washington, en tout cas, a été mis sur la touche par son allié israélien. Cela jette une ombre sur la relation Trump-Netanyahou déjà pas fameuse. Et puis, c'est aussi pour Donald Trump, après l'Ukraine, après Gaza, la perspective d'un nouveau conflit dans lequel les États-Unis seraient aspirés. Washington, quoi qu'il en soit, plutôt que de tenser son allié, préfère donc ce matin faire pression sur l'Iran et exhorter à cet accord rapide dont la perspective s'éloigne. Mais rappelons, Céline, que c'est Donald Trump qui, en 2018, était sorti de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien.
Merci Loïc Loury, en direct des États-Unis pour France Inter. Et parmi les conséquences très concrètes de ces tensions, de ces craintes d'escalade, le trafic aérien est perturbé dans tout le Moyen-Orient. L'Iran, l'Irak, la Jordanie ont annoncé la fermeture de leur espace aérien. Plusieurs compagnies du Golfe ont annulé leur vol vers le Proche-Orient. C'est le cas de Qatar Airways, d'Emirates. De son côté, Air France annonce suspendre sa liaison entre Paris et Tel Aviv, alors que la compagnie allemande, la Lufthansa, suspend de son côté ses vols vers Téhéran. Et puis les marchés mondiaux aussi réagissent très fortement. Le cours de l'or est en forte hausse, tout comme le cours du pétrole. Il faut dire que l'Iran figure parmi les 10 plus grands producteurs de pétrole dans le monde. Et ça pourrait avoir une incidence sur le prix à la pompe, assure Patrice Geoffron. Il est professeur d'économie à Paris-Dauphine et spécialiste des questions énergétiques.
Environ 20% du pétrole transite par le détroit d'Ormuz, qui, comme son nom l'indique, est très étroit, est situé entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc là, c'est la garantie, s'il devait y avoir un blocage, d'une flambée du prix du pétrole, sans doute très au-delà de 100 dollars le baril, pour une durée qui est indéterminée. Et puis, il y a un nouvel enjeu, il y a une menace cachée qui est sur le gaz naturel liquéfié, parce que, dans le prolongement et comme une conséquence de la guerre en Ukraine, eh bien, il y a de plus en plus de gaz naturel liquéfié qui est exporté à partir du Qatar. Ce pétrole, ce gaz ne vont pas uniquement en Europe, loin de là, et vont plutôt d'ailleurs en Asie, mais ça aurait mécaniquement un impact sur le prix. Et donc, la problématique, c'est peut-on faire face à une flambée qui tirerait les prix à la pompe au-delà de 2 euros, à l'abord en plus de la période d'été, durant laquelle on a à utiliser son véhicule sur de plus grandes distances.
Le spécialiste des questions énergétiques, Patrice Geoffron, au micro de Claire Chauder, et on viendra très largement sur cette opération israélienne, sur ses multiples conséquences, avec Éric Delvaux ce soir dans le 18-20 de France Inter.
France Inter, le 13-14. Céline Asselot.
Le changement climatique, la surexploitation des ressources, la perte de biodiversité, les menaces qui pèsent sur l'océan ont été au cœur toute la semaine du sommet des Nations Unies qui s'achève ce soir à Nice. Sandy Dauphin, on vous retrouve sur place. Alors on attend une déclaration finale, consensuelle, hein, sur la protection des océans. Mais il y a aussi ce document qui fait un peu le catalogue de toutes les mesures intitulées les engagements de Nice. Et principale annonce, Sandy, le traité sur la haute mer devrait entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026.
Oui, ce matin, l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron au sommet océan l'a martelé. Les 60 ratifications nécessaires pour l'entrée en vigueur du traité sur la haute mer qui couvre les deux tiers de la surface des océans, ce n'est plus qu'une question de jours. Même la Chine a promis de signer. La barre des 50 signatures a été franchie. L'application de ce texte négocié pendant 15 ans, adopté il y a 2 ans, c'est donc pour bientôt, selon Olivier Poivre d'Arvor.
Il est acquis. L'ensemble des ratifications seront obtenues à la fin de l'été, mais les pays sont engagés, donc c'est fait, voilà. Et donc il y aura la cérémonie officielle le 23 septembre 2025 à New York. C'est une grande victoire du multilatéralisme, hein. Et c'est une manière de dire à ceux qui n'ont pas voulu le rejoindre, vous n'étiez pas de la fête, voilà. Et surtout, ce qui va être très important, c'est qu'on va pouvoir enfin avoir la COP 1 de l'océan. L'océan a toujours été maltraité des grandes conventions. Et à Nice est née, en fait, cette COP océan, la COP 1, qui traita de la haute mer.
Une COP entièrement dédiée océan dès 2026, c'est un peu la version formelle de ce sommet de Nice, une instance décisionnelle.
Alors pendant ce sommet, Emmanuel Macron avait dit les abysses ne sont pas à vendre. Est-ce que les pays, Sandy, sont parvenus à une position commune sur l'exploitation des fonds marins ?
Alors sans surprise, non, c'est un sujet qui divise ici. Prenons les petites îles du Pacifique, elles ne sont pas d'accord entre elles. Les Tonga ou Nauru veulent accorder des permis, tandis que les îles Palaos sont contre. À Nice, la coalition pour un moratoire contre l'exploitation minière des grands fonds s'est quand même un peu étoffée. Elle est passée de 32 à 37 pays. D'après la France, 37, c'est assez pour bloquer l'adoption d'un code minier international déterminant. Mais le moment de vérité, ce sera en juillet en Jamaïque, lors d'une réunion cruciale de l'autorité internationale des fonds marins. Commentaire de Greenpeace, les belles paroles doivent maintenant se traduire en actes.
Merci Sandy Dauphin, en direct de Nice, grâce aux moyens techniques de Jérémy Thuil. Et puis aussi, on peut aussi signaler cet appel commun signé par 96 pays contre la pollution plastique des océans. Un mot toujours concernant l'actualité internationale, concernant l'Inde. Les enquêteurs ont retrouvé l'une des deux boîtes noires du Boeing 787 d'Air India qui s'est écrasé hier à Ahmedabad peu après son décollage. L'accident a fait 241 morts parmi les passagers de l'avion. Il n'y a qu'un seul survivant et 24 morts au sol car l'avion s'est écrasé sur un bâtiment résidentiel. Un cas de chikungunya détecté dans le Var sur la commune de La Croix. La personne malade n'avait pas voyagé dans une zone contaminée, ce qui signifie qu'il s'agit là du premier cas autochtone de chikungunya repéré en France métropolitaine cette année. Des opérations de démoustication ont été lancés dans le quartier concerné. L'ensorcelé de Barbé d'Aurevilly, l'art du mensonge chez Corneille. Voici quelques-uns des thèmes proposés ce matin aux élèves de première. C'était l'épreuve de français qui s'est terminée à midi, coup d'envoi du bac 2025 pour les filières générales et technologiques. La philosophie est prévue lundi pour les élèves de terminale. Comment grandir quand on est une start-up mais qu'on est installé loin de Paris? Ça aussi, c'est une question sur laquelle on pourrait plancher pendant des heures, car ce n'est pas toujours facile pour les entrepreneurs de décrocher des contrats en région. La moitié des start-up françaises sont en Île-de-France. Ce sont elles qui attirent une grande majorité des investissements. Alors les autres tentent de profiter du salon Vivatech qui se tient jusqu'à demain à Paris pour tenter de mieux se faire connaître. Thomas Giraudot.
Les deux cofondateurs d'Ava travaillaient déjà à Lyon quand ils ont créé leur start-up et leur produit, un logiciel qui propose aux entreprises d'assembler virtuellement des pièces de machines avant de les fabriquer réellement. Et le marché local est porteur. Thierry Sauvager est installé au cœur de la région la plus industriel du pays.
Des activités pour assembler des robots, du mobilier, des machines spéciales dans le médical. Aujourd'hui, on a une quinzaine de clients et là, on a une démarche de levée de fonds.
C'est justement pour trouver des investisseurs que Thierry Sauvager vient à Vivatech. Quelques jours à Paris, pas plus, pas besoin pour l'instant. Comme la plupart des régions, Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, propose des aides financières à ces startups.
On fait partie du pôle Minalogique qui est spécialisé dans le digital sur la région Aura. Le pôle nous a accompagnés pour identifier les acteurs de l'écosystème. Ensuite, la région nous accompagne également dans un programme de levée de fonds.
En revanche, à Montpellier, Olivier Reynaud, lui, a fait ses cartons. Son entreprise, qui s'appelle Aave, produit des vidéos avec l'intelligence artificielle. Et pour les vendre, il se doit d'être à Paris.
Quand on est physiquement proche de ses interlocuteurs, ça fait toute la différence. Si on retire les clients américains, 100% de nos clients sont à Paris. Par rapport à notre business propre chez Aave, il fallait avoir ses deux pieds.
Un pied à Paris pour les clients et les investisseurs, l'autre pied dans le sud. C'est là que sont restés ses ingénieurs à 100% en télétravail.
Les précisions de Thomas Giraudot. À Saint-Martin-de-Crau, dans les Bouches-du-Rhône, un incendie spectaculaire mais sans gravité. Il a été causé par la rupture d'un pipeline qui transportait du méthane dans une zone agricole. Aucune personne, aucune habitation n'a été touchée selon les pompiers. Le feu est en passe d'être éteint. C'est toute une ville qui rêve de voir son club entrer dans la cour des grands. Bayonne en ébullition aujourd'hui à quelques heures du match entre l'Aviron Bayonnais et Clermont au stade de Jean Daugé. L'enjeu, c'est une place en demi-finale du top 14 de rugby. Cela fait 33 ans que Bayonne n'a pas atteint les phases finales de la compétition. Alors les supporters, Thomas Vinclair, sont à fond derrière leur équipe.
Marion et Sophie ont déjà prévu la tenue. Ce sera du ciel et blanc pour cette journée historique.
Histoire de bien passer la journée ensemble, entre amis, entre copains et en famille, pour prévoir le match le soir avec une belle fête à la fin, on espère.
Elles prendront ensuite la route de Jean Daugé dans la joie, avec peut-être quelques arrêts au coin d'un bar, sourit Sophie.
Finalement, des fêtes de Bayonne, mais avant l'heure.
Lily et Sandrine, mère et fille, iront devant l'écran géant installé sur la place verte.
Tout le monde est prêt, avec toutes les banderoles qui sont accrochées déjà sur les bâtiments, donc ouais, ça va être sympa, ouais.
Donc nous, on est pur bayonnais en plus, donc c'est oui, quelque chose qui va fédérer tout le monde.
Sandrine qui a donné rendez-vous à toute sa famille.
On commencera déjà un peu avant. Et puis on continuera un peu après.
Mais pour ceux qui se souviennent des jours qui précédaient le quart en 1992 ou récemment lors des phases finales de Pro D2, Bayonne est quelque peu endormie. C'est ce que pense Benjamin, un bayonnais de la première heure.
Ça manque de ferveur, on voit pas les couleurs du club et les rues sont calmes. Je trouve que même ça chambre pas trop.
Reste que les gérants de cafés et de bars se frottent les mains, des fûts supplémentaires ont été commandés. On s'attend à une journée XXL.
Il y a un petit peu plus que d'habitude, oui. Bertrand, on est au tire-bouchon à Bayonne. Ça va être dur. Ça va être très lourd.
Et une fois la nuit terminée, tous auront les regards tournés vers vendredi prochain en cas de qualification, cette fois-ci en demi-finale.
Thomas Vinclair, Bayonne-Clermont. Le match est donc prévu ce soir à 21h. Les mondiaux de judo s'ouvrent à Budapest. Aujourd'hui, près d'un an après les JO de Paris, l'équipe de France rêve de nouvelles victoires malgré l'absence de ses grands champions Teddy Riner et Clarissa Benenou. Il s'agit de poser les bases avant la prochaine Olympiade à Los Angeles en 2028. Et puis eux ne rêvent pas de médailles mais de salles remplies et de spectateurs conquis. Les aspirants humoristes sont de plus en plus nombreux en France. Les comédie clubs fleurissent dans toutes les villes et on y rencontre beaucoup de jeunes trentenaires qui rêvent de faire carrière dans le stand-up et qui cumulent emploi salarié pendant la journée et scène dans la soirée. Margot Kefelec.
Sur la scène de ce comédie club parisien, Nora, 31 ans. Pour arriver à l'heure sur scène après sa journée de travail comme documentariste, le timing était serré.
J'ai pris un vélo électrique là pour aller plus vite d'un endroit à un autre parce que je bossais dans le nord de Paris aujourd'hui à mon bureau. Ouais.
Au quotidien, elle peut gérer ses deux casquettes grâce à un emploi du temps flexible. Plus compliqué pour Armand, 30 ans, cadre dans la finance.
Je sors de chez moi vers 7h30 et je rentre à 23h. Pour s'endormir, c'est bien parce que je m'évanouis, mais je suis fatigué.
Ajoutez à cela le regard de nombreux collègues.
Pour eux, il y a tout de suite un truc de ça veut dire que tu vas être moins productif ici ou que ça leur plaît moins. Quoi.
Et le jugement des autres stand-uppers.
Il y a un peu cette culture du sacrifice dans le stand-up où en fait, si t'as pas tout laissé tomber pour le stand-up, tu vas jamais marcher.
Pourtant, pour eux, le travail est une source d'inspiration.
Le premier sketch que j'ai écrit, c'était sur les documentaires d'histoire sur les nazis parce qu'en fait, je faisais que ça toute la journée et j'avais besoin d'un catharsis.
Les collègues qui racontent leur vie, qui racontent leurs déboires, leurs trucs, qui sont la bonne illustration à apporter sur ton sketch. Ouais.
S'ils sacrifient parfois un peu de leur vie sociale, Nora et Armand n'envisagent pas de faire une croix sur une de leurs deux carrières, à la ville comme sur scène.
Je vais m'arrêter là-dessus, merci.
On a tous besoin d'un peu d'humour, surtout en ce moment. Reportage signé Margot Kefelec, 13h26. Restez avec nous sur France Inter. À suivre la météo de Sébastien Léas pour voir ce que le week-end nous réserve, en tout cas du côté du ciel. On va ensuite accueillir notre invité. C'est une femme qui a passé sa vie à témoigner pour que jamais l'oubli ne l'emporte. Arlette Testiller est une rescapée de la rafle du Veldiv et elle s'est battue pour que le couple qui l'a recueillie et cachée pendant la guerre soit élevé au rang de juste parmi les nations. Elle a réussi, puisque la cérémonie est prévue lundi prochain. On va en parler avec elle. Notre feuilleton ensuite est consacré à l'aéroport d'Aurillac dans le Cantal et sa liaison deux fois par jour avec Paris-Orly, qui est cruciale pour l'économie locale. C'est ce qu'on va entendre dans ce dernier épisode de notre feuilleton. 13h50, c'est la France. Bonjour Jean-Baptiste René.
Bonjour.
Du quotidien L'Équipe, et on va parler vélo et Haute-Savoie aujourd'hui.
Oui, puisque cet après-midi même, les coureurs du Critérium du Dauphiné vont gravir une côte méconnue, mais qui appartient pourtant à l'histoire du cyclisme depuis les exploits d'un certain Bernard Hinault.
Et bonjour à vous Frédéric Pommier.
Bonjour Céline.
C'est une chanson qui est à votre micro aujourd'hui.
Il s'agit de Moziman, DJ de renommée internationale, chanteur, compositeur. Il a notamment composé deux des albums de Grand Corps Malade. Remporté aussi la saison 7 de la Star Academy. Et avec lui, c'est une chanson de Vincent Delerme que nous écouterons, La Vipère du Gabon.
Merci à tous les deux. Je vous dis à tout à l'heure.
Mission décarbonation avec EDF.
La décarbonation des bâtiments est cruciale pour atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est pourquoi EDF propose une solution de pilotage intelligent du bâtiment. Nathalie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée d'affaires énergétiques chez EDF. Alors, en quoi consiste ce pilotage intelligent ?
Eh bien, il s'agit d'un outil digital qui permet d'automatiser la gestion du chauffage et la climatisation d'un bâtiment. Son gestionnaire peut ainsi simplement et à distance piloter et adapter la bonne température au bon moment.
D'accord. Et alors, qui peut en bénéficier et pour quel résultat ?
Alors, ce dispositif fonctionne avec tous les systèmes de chauffage et de climatisation. Il s'adapte à tous les bâtiments tertiaires, comme les écoles, les bureaux, les commerces, que vous soyez client EDF ou pas. Vous pouvez réduire vos consommations tout en garantissant le confort des occupants.
Efficace. Merci Nathalie.
C'était Mission Décarbonation avec EDF.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter, partenaire du festival Mot pour Mot, organisé par Le Monde, Le Nouvel Obs et Télérama. Une cinquième édition marrainée par Lola Lafont autour d'une quarantaine d'auteurs et autrices. Neige Sino, Vanessa Springora, Camille Laurence, Olivier Norek, Christine Angot. Rencontres, lectures, signatures et autres festivités pour mettre la littérature et la musique à l'honneur. Mot pour Mot, les 21 et 22 juin à La Villette, un événement Le Monde, Le Nouvel Obs et Télérama avec France Inter.
Tout de suite, la météo.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Et la chaleur s'accentue aujourd'hui, j'allais dire encore.
Effectivement, à l'échelle nationale, c'est même la chaleur, la journée la plus chaude de cet épisode de pic de chaleur. Cet après-midi, les maximales atteindront 28 à 35 degrés avec 32 degrés à Marseille, 33 degrés à Paris ou encore 34 degrés à Lyon, Bordeaux et à Dijon. On attend même parfois jusqu'à 37 ou 38 degrés alors qu'il fera seulement 24 degrés à Concarneau. Demain, la chaleur restera intense sur la façade est, mais les températures deviendront plus respirables sur les régions de l'ouest. L'après-midi sera évidemment largement ensoleillé, mais attention aux orages sur l'ouest. Quelques averses orageuses abordent déjà la Vendée et le Finistère, mais c'est surtout à partir du milieu d'après-midi et ce soir que les averses et les orages vont se multiplier. D'abord en concernant les pays de la Loire, la Bretagne et la Basse-Normandie, puis en se décalant en fin de journée vers la Haute-Normandie et les Hauts-de-France, en débordant sur l'ouest parisien. Une autre salve orageuse va également s'organiser sur les Pyrénées en deuxième partie d'après-midi et se propager en direction de la Garonne ce soir. Prudence, que ce soit sur les régions du nord-ouest ou sur le bassin aquitain, ces orages risquent d'être violents, apportant de fortes pluies et s'accompagnant de grêles, mais aussi de puissantes rafales de vent. 28 départements sont d'ailleurs placés en vigilance orange pour ces orages virulents.
Merci Sébastien Léas de Météo France.
France Inter, le 13-14, Céline Asselot.
Il s'appelait Jeanne et Jean Philippot et dans quelques jours, le 16 juin prochain, lors d'une cérémonie à Vendôme dans le Loir-et-Cher où ils vivaient, tous les deux vont être élevés au rang de juste parmi les nations. Cette reconnaissance, cette décoration prestigieuse, elle résulte d'un long combat que vous avez mené. Bonjour Arlette Testilaire.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans le studio du 13-14. On est très heureux de vous recevoir. Alors je vais commencer par donner votre âge. J'espère que vous me pardonnerez cette inélégance. Vous avez 92 ans. Vous vous battez depuis des décennies pour que l'on honore la mémoire de Jeanne et Jean Philippot, parce que c'est le couple qui vous a caché, vous et votre sœur, pendant la guerre. Vous étiez une petite fille de 9 ans. Vous veniez d'échapper à la rafle du Veldi. Vous allez nous raconter.
Non, je n'ai pas échappé, j'étais à la rafle.
Vous avez raison de le préciser et vous allez nous le raconter. Je voudrais d'abord, Arlette Testilaire, que vous nous disiez si vous avez aujourd'hui, à quelques jours de cette cérémonie, un sentiment de soulagement, d'accompagnement.
Ah oui, il était temps. C'est, le soulagement, je l'ai eu, c'est quand la surprise, quand Yad Vashem m'a téléphoné en me disant les Philippot vont avoir la médaille des justes. Et vraiment, j'y croyais pas. Ça fait plus de 80 ans avec ma sœur, qui a été elle aussi, elle est plus âgée, elle a 16 mois de plus que moi, mais elle a l'initiative de faire ce dossier qui a été rejeté plusieurs fois.
Et comment vous expliquez que ça a été si long, finalement ?
Il y en a encore qui sont en attente, on n'est pas les seuls. Et ça a été si long parce que, en fait, Yad Vashem décerne cette médaille, comme vous venez de le dire, elle est unique. En Israël, ce n'est pas comme ici, moi j'ai la Légion d'honneur, j'ai décoré des palmes et tout ça. En Israël, non. Les seules décorations qui existent, ce sont les militaires. Civil, ça n'existe pas. Et celle de Yad Vashem, c'est la plus haute distinction, parce que, comme dit dans la Bible, qui sauve une vie, sauve l'humanité. Et c'est pour ça. Donc, il fallait dire toute la vérité. Et nous, on a été dans les premiers, et on a dit la vérité. En fait, on les a aidés. Et il faut avoir sauvé une vie sans aide extérieure.
Mmh. Sans en avoir tiré profit, aussi. Sans en avoir tiré profit, finalement.
Oui, c'est-à-dire, mais on ne pouvait pas dire autrement. D'abord, c'était la vérité. Et ces gens étaient, mais pauvres, vous ne pouvez même pas imaginer. Ils avaient un grand cœur, mais une pauvreté. Pensez, elle ne travaillait pas, puisqu'elle était un peu nourrice, et elle s'occupait des enfants. Mais lui, il était savetier. Vous savez, quand je témoigne hier, j'ai encore témoigné dans un lycée à Neuilly, ils ne savent pas ce que c'est que d'être savetier. Il y avait une usine de fabrique de sabots en bois. Qu'est-ce qu'ils pouvaient gagner? Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir? Mais c'était des gens extraordinaires, un cœur énorme.
Alors avant d'arriver auprès de ce couple, Jeanne et Jean Philippot, qui vous ont sauvé la vie, à vous et à votre sœur, il y a eu des épreuves terribles que vous avez traversées. Alors vous dites, vous êtes née une première fois à Paris en 1933, une seconde fois à Vendôme en 1942. Peut-être pouvez-vous nous dire quelques mots de votre enfance, qui a été heureuse, Arlette Stiller, jusqu'à la déportation de votre papa, c'était oui. En 1941, oui. Qui est mort à Auschwitz. Un peu plus tard, vous l'avez appris évidemment après la guerre.
Oui, oui, j'ai eu une enfance plus qu'heureuse. On était déjà des privilégiés, mes parents étaient déjà bien installés, on avait un commerce. Bon, tout de suite, il y a eu les lois anti-juifs. Mon père s'est fait recenser, il a fait son service militaire, c'est-à-dire il s'est battu pour la France, il s'est engagé. Et il y a eu tout de suite la spoliation, il y a eu la séquestration de tous nos biens, tout a été saisi. Mais j'avais une vie tellement heureuse. On vivait pas comme les enfants vivent actuellement. Nous, on vivait dans la rue. La rue nous appartenait. On n'avait pas de crainte. On vivait. Il n'y avait pas de digicode. Il n'y avait pas d'interphone. On allait chez les uns, chez les autres, prendre un goûter. On ouvrait la porte, l'espagnolette. Est-ce que Arlette ou Madeleine est là? On pouvait prendre un goûter. Il y avait une liberté totale. J'allais à l'école laïque. Bon, mes parents n'étaient pas ce qu'on appelle des religieux. Mais il y avait une certaine tradition. Mais du fait que les fêtes chrétiennes tombent en même temps que les fêtes juives, à peu près, vous savez, il y a Noël. Nous, on a Hanouka. Donc, j'avais des jouets pour Noël, des jouets pour Hanouka. Nous, on avait Pâques et la fête de Pessah. C'était la même chose, j'avais les chocolats pour l'un, les chocolats pour l'autre. Donc j'ai été une petite fille très gâtée.
Vous aviez le sentiment d'avoir une enfance finalement très comme très, les autres, comme, toutes les, très comme tous les enfants autour de vous. Très, votre papa d'ailleurs semblait...
On était très heureuse, très français.
Oui.
Mon père, plus français que lui, ça n'existe pas.
Alors j'ai lu cette phrase que vous avez retenue dans ses derniers mots. Il disait « Qu'est-ce que je risque dans la France de Diderot, de Voltaire et de Zola ?»
C'est vrai. Mais c'est, vous savez, quand on a 8 ans et demi, j'avais 8 ans et demi quand il a... Mais moi, je pensais que c'était des copains, que c'était des amis, comme on en avait. Je ne pensais pas du tout que c'était quelque chose de littéraire, d'utopique, de qu'il avait lu. On a été élevés très, très françaises. Oui.
Oui. Alors, il a été victime, votre père, de ce qu'on a appelé la rafle du Bièvre, c'est-à-dire oui. qu'il a été convoqué par oui. la police. Il y est allé, oui. en pensant ne rien craindre.
Absolument. Parce qu'il était quand on a reçu cette convocation du Bièvre, ma maman ne voulait pas qu'il y aille. Elle sentait déjà, puisqu'on avait déjà été spoliés, il y avait eu un administrateur de biens qui avait pris tout ce qu'on possédait. On avait des grands ateliers de fourrure et tout. Et ma mère disait, non, n'y va pas. Et c'est là que mon père, il a dit, mais qu'est-ce que je risque? Les enfants sont français, je me suis battue pour la France, j'ai fait la guerre, je risque rien. Et il y avait écrit dessus, c'était bien fichu, parce que c'était sournois. Il y avait écrit pour vérification d'identité. Attendez, il était en règle, il était plus qu'en règle, il s'était engagé. Et accompagné d'un adulte. Pourquoi un adulte?
Oui.
Parce que lorsque c'est présenté, on l'a accompagné, ma sœur et moi, je me souviens, on était toutes les trois. On est arrivés dans le commissariat, on lui a pris les papiers, et on a dit à ma maman, allez lui chercher des vêtements, et il n'est plus jamais ressorti. De là, il est parti dans
le... destination inconnue, comme on
non,
disait.
Non, d'abord le camp de Pithiviers. Et dans le camp de Pithiviers, il aurait pu s'échapper du camp de Pithiviers, parce qu'il a été pris pour faire les moissons. Les paysans, du fait du STO, manquaient de main-d'œuvre. Donc, ils ont demandé aux gendarmes du camp de demander est-ce que des internés peuvent venir. Donc, mon père a fait les moissons. Et je me souviens, on a été le voir, on était avec maman. Et tous les soirs, ma mère pleurait. On va se sauver, il ne faut pas rester. Et elle lui disait, mais qu'est-ce que je risque? Regarde, on est bien, on va attendre la fin de la guerre. Ils ne voulaient pas se sauver. Et puis, ils disaient tout le temps, ils ont dit qu'ils prendraient des otages si je me sauve. Donc, ils ne voulaient pas.
C'était inimaginable. Et ouais. Quelques mois plus tard, le 16 juillet 1942, c'est vous, votre maman, votre sœur, qui êtes menée de force par la police et la RAF du Veldiv, et vous en gardez, malgré les années, les décennies, un souvenir extrêmement fort, ça, évidemment, extrêmement choqué, la petite fille que vous étiez à ce moment-là.
Oui, c'est ces deux choses qui m'ont marqué. D'abord, le port de l'étoile jaune, qui a été une horreur pour moi, parce que je ne voulais pas aller à l'école avec... Moi, j'allais à l'école laïque, j'estimais que j'étais comme tout le monde, que ce n'était pas une décoration, donc je ne voulais pas y aller. C'est pour ça que j'ai des photos, le livre, les derniers livres que j'ai écrits, je suis avec sur la photo. Mais on a été... je me souviens, il était 6h du matin, la police a frappé à la porte, ma sœur dormait encore, maman a été ouvrir, et elle nous a dit que c'est la police. Et il y avait deux policiers, et... avaient une feuille dans la main, et eux, sans se démonter froidement, ont dit « on vient arrêter votre mari ». Et là, ma maman, qui était une maîtresse-femme, qui avait l'habitude d'avoir du personnel sous ses ordres, a dit « mais il est déjà parti, en destination inconnue, et vous l'avez déjà pris ». Et eux, sans se démonter, ont dit « c'est vous et vos enfants ». Et là, j'ai vu ma maman qui a commencé à perdre son sang-froid, qui s'est battue avec. Elle a pris tout ce qu'elle a trouvé à la maison, des assiettes, des casseroles, des tabourets. Elle s'est battue, elle ne voulait pas cesser d'arrêter. Bon, ça a servi strictement à rien. Ils ont arrêté dans l'immeuble où j'habitais, c'était un grand pâté de maison. Il y avait 4 familles juives, tous avec des enfants. La plus jeune, c'était Régine, elle n'avait pas 3 ans, blonde aux yeux bleus. Tout le monde a été arrêté, tout le monde. Personne n'est revenu. Et maintenant, je traîne cette culpabilité jusqu'à me présent. Malgré les témoignages et tout ce que je fais, je traîne cette culpabilité. Pourquoi moi je suis revenue ? Pourquoi je suis là ?
Et on sent que vous avez besoin justement de vous battre pour qu'on n'oublie jamais ceux qui n'en sont pas revenus.
C'est sûr, mais ça n'enlève pas la culpabilité. Pourquoi Régine, Lazare, Serge et les autres, tous mes petits copains, tous mes petits amis ne sont pas revenus ?
Vous, vous êtes parti après quelques jours au Vélodrome d'hiver au camp de Beaune-la-Rolande, où vous avez réussi là, à vous échapper grâce à la détermination de votre maman, qui a inventé un mensonge pour obtenir un laissez-passer. Vous êtes rentré à Paris, c'est là que vous êtes parti à Vendôme, où ce couple, Jeanne et Jean-Philippot, vous ont caché. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez pu revivre un tout petit peu de votre enfance ?
C'est pas que je ne pouvais pas revivre mon enfance, puisque je n'avais pas mon père ni ma maman. On n'était que ma soeur et moi. Mais j'ai ressenti une renaissance, si vous voulez. Et c'est pour ça que je dis, c'est vrai que je suis née à Paris, dans le 12e, mais en réalité, je suis née à Vendôme, et si je pouvais, je le mettrais même sur ma carte d'identité, parce que je suis née en 42 à Vendôme, et j'avais 9 ans. Je suis arrivée dans cette famille tellement simple, tellement ouverte. Jamais ils ont parlé ni de juifs, ni rien, rien du tout. Des gens, des justes, vraiment.
Ils seront justes, d'ailleurs, dans quelques jours.
Oui, c'est ce qu'on appelle ces armées de l'ombre,
vous
qui,
êtes
eux,
restée,
ont sauvé la France.
Vous êtes resté avec eux quasiment jusqu'à la fin de la guerre?
Pratiquement, juste les 3 derniers mois, il a dû se passer quelque chose où elle a été menacée de, peut-être de dénoncer, je ne sais pas, mais elle n'a pas pu nous garder, et elle a fait des recherches, elle a retrouvé ma maman, qui se cachait dans les fermes aux alentours de Vendôme, et en lui disant qu'elle ne peut plus nous garder. Et là, ma mère, qui était pleine de ressources, a réussi à nous cacher dans Vendôme. Vous savez, si je suis née à Vendôme, c'est pas pour rien, c'est la plus belle région de France. Vous savez, c'est les châteaux de la Loire, c'est pas pour rien que les rois de France ont construit sur leur Loire. C'est une ville magnifique, et... actuellement, il n'y en a plus beaucoup, mais vous savez, tous les champignons de Paris que vous mangez à Paris, eh bien, venaient de Vendôme. Il y avait des kilomètres de galeries où les champignons de Paris poussaient. Donc, elle a retrouvé ma maman, et c'est là qu'on s'est cachés les 3 derniers mois. Mais on n'était pas les seuls, on n'était pas avec des Juifs qui se cachaient, parce que l'armée américaine qui faisait une avancée, il y avait des réfugiés qui avaient été pris par des bombardements, qui n'avaient plus de où se loger, donc venaient dans ces dans ces souterrains, dans ces champignonnières. Il y avait des kilomètres et on jouait, nous, les enfants, on jouait comme des fous là-dedans.
Ça vous a sauvé, cette vie.
Complètement.
Et vous ne les avez jamais revus, Jean et Jeanne Philippot, après la guerre?
Non, pas.
Mais
non,
vous les avez pas oubliés.
On les a vus une fois parce qu'on a refait des recherches chez le beau, chez le frère de Madame Papon, de Madame Philippot, qui, eux aussi, cachaient des enfants juifs. En fait, toute cette famille, qui vivait dans un rayon de 20 km, cachait tous des enfants. Mmh. On s'est retrouvés plus de 25 enfants, avoir été cachés chez le beau-frère, chez les uns, chez les autres. C'était extraordinaire.
Ils n'en ont pas parlé, ils ne s'en sont pas vantés, visiblement,
non, pas
auprès
tout.
De leurs enfants, leurs petits-enfants. C'est quelque chose dont on parlait peu, finalement.
On n'en parlait pas du tout. On vivait comme tout le monde. On avait une vie normale. On vivait comme des pirates, sans papier, sans carte d'identité, sans carte d'alimentation. Mais le Jean et la Jeanne se débrouillaient, allaient au ravitaillement tout le temps. Elle allait tous les deux jours en vélo dans les fermes pour apporter du beurre, du lait, de la crème. J'ai mangé pendant la guerre des pommes de terre à la crème, des œufs au lait, des omelettes.
Vous en avez gardé un souvenir visiblement très, très, très précis.
Très, très. J'ai gardé les odeurs, les saveurs.
Et vous serez à Vendôme lundi prochain pour, oui, pour cette cérémonie.
Je suis très contente. C'est dommage qu'eux ne sont plus là, malheureusement. Moi, je pensais qu'ils étaient âgés. Vous savez, quand on a 9 ans, quelqu'un de 20 ans paraît vieux. Mais en fait, ils étaient jeunes. Ils ont eu des enfants après la guerre. Et ils ont eu 3 enfants, 3 fils, un qui a décédé. Et on les a retrouvés. Je suis contente. Il y a la petite fille. Je suis allée il y a à peu près 3-4 semaines avec l'antenne 2, faire et un pèlerinage sur leur tombe, au cimetière, dans la maison et tout ça.
Et leur courage, leur engagement seront donc reconnus lundi prochain lors de cette cérémonie. On aura une pensée pour eux, Jeanne et Jean Philippot.
Il faut.
Et pour vous aussi. Merci beaucoup, Arlette Estiller, d'être venue aujourd'hui.
Il faut penser à ces gens-là. Parce que sans eux, vous savez, de toute l'Europe, c'est vrai que la France a collaboré. Et de toute l'Europe, c'est en France qu'on a sauvé le plus d'enfants juifs.
Et c'est un message important aussi.
Il faut le dire.
Ouais.
Et c'est surtout à partir de cette époque, du Vélodrome d'hiver. Parce que quand mon père a été emmené à Auschwitz pour être assassiné, ils se sont dit, bon, ceux-là vont travailler. Vous savez, il y avait le STO, le service du travail obligatoire. Mais quand ils ont vu, nous, nos wagons à bestiaux,
avec
des petites mains d'enfants et des vieillards, ils se sont dit, ceux-là ne vont pas travailler.
À ce moment-là, vous avez passé votre vie, effectivement, à témoigner et à raconter.
Absolument. D'ailleurs, dans le train, ma mère, qui était une mère courage, a écrit un petit mot qu'elle a jeté sur la voie ferrée. Pas d'enveloppe, pas de timbre, ni rien du tout. À des voisins non-juifs, comme quoi on a été arrêté arbitrairement. Eh bien, ce petit mot est arrivé. C'est ça, la France.
Ouais.
C'est ça, la France que j'aime. C'est ça, ma France.
Merci beaucoup, Arlette Estiller, pour votre témoignage. Merci d'être passé par le studio du 13-14. Et c'est l'heure de notre feuilleton qui nous plonge depuis le début de la semaine dans le quotidien de l'aéroport d'Aurillac dans le Cantal. C'est l'un des plus petits de France. Une seule ligne commerciale, c'est avec Paris-Orly 2 fois par jour. La ligne est déficitaire, l'État et les collectivités locales doivent la soutenir financièrement. Mais c'est un choix politique qui fait consensus sur place. Écoutez cet épisode.
Moi je suis en déplacement entre 50 et 70% de temps. Mais là où pour nous c'est plus critique, parce que bon, en réalité, quand on travaille comme business developer ou des choses comme ça, il faut accepter le fait qu'il faut voyager, quoi. Il faut faire de la route, il faut passer beaucoup de temps dans les aéroports, etc. Mais pour nous, le plus critique, c'est nos clients. Parce que sans la ligne Paris-Aurillac, pour nos clients, ça devient très, très compliqué. Je suis Richard Alice. Je suis responsable de business development, Bios Industry, ici à Aurillac. Bios Industry est un prestataire de services qui fabrique des médicaments pour les entreprises partout dans le monde. 99% de la business Bios est à l'étranger. On a des Américains qui sont là tous les mois, des gens qui viennent de Corée, on a des personnes qui viennent là actuellement dans la région d'Allemagne. Aujourd'hui, on a quelqu'un de Paris, c'est un de nos rares clients français qui est là actuellement aujourd'hui. Mais même lui, il a pris l'avion Orly-Aurillac. Ce qui est le plus important pour eux, c'est nos clients. Et pour eux, la ligne Paris-Aurillac est essentielle.
La ligne aérienne, si elle n'était pas là, la plupart des grosses entreprises quitteraient la région. Pierre Matonnier, maire d'Aurillac et président d'Aurillac Agglo. La ligne aérienne, la ligne régulière, elle est déficitaire, elle est structurellement déficitaire. Donc la participation des collectivités, elle est pour combler ce déficit. C'est un choix politique que nous avons fait, voté à l'unanimité, que ce n'était pas une question de couleur de parti, puisque aujourd'hui, le développement économique est absolument nécessaire pour notre territoire. La raison pour laquelle même nos élus verts ont accepté ce financement, c'est parce qu'aujourd'hui, si nous n'avons pas notre industrie, si nous n'avons pas nos entreprises, on aura la chance d'avoir un espace très préservé, mais il n'y aura pas de vie humaine. Donc l'État met sur les 3 années 10 millions d'euros, je crois. C'est le financement des lignes soutien du territoire. C'est un budget spécifique dans le budget de la France, dont Aurillac a été le premier bénéficiaire en poids de contribution, puisque c'est Aurillac qui a le plus de nécessité d'avoir ce soutien de l'État.
Ce sont des obligations de service public qui ont des durées de 4 ans. Bruno Faure, président du conseil départemental du Cantal. Donc là, aujourd'hui, nous sommes, j'allais dire, au milieu du gué, puisque ce renouvellement devant intervenir, je pense que ça doit être en juin 27. Donc nous avons le temps, effectivement, de nous y préparer. Nous avons déjà commencé à interpeller la ministre Françoise Gatel sur, non pas nos inquiétudes, mais dire « attention, il y a un dossier qui est prioritaire et primordial, entre autres ». Pour des départements hyper ruraux comme le Cantal, c'est celui des lignes d'aménagement du territoire. Donc on vous demande effectivement d'avoir un œil attentif sur cette mesure-là. Et puis nul doute qu'on essaiera aussi de sensibiliser le Premier ministre, le ministre des Transports. Chaque ministre que nous aurons l'occasion de croiser dans le Cantal ou à Paris, bien sûr, aura ce petit, j'allais dire, cette petite musique de fond sur la nécessité de conserver les lignes d'aménagement du territoire. Maintenant, j'espère qu'on sera entendu.
Une semaine dans leur vie, feuilleton cette semaine signé Adrien Serrière avec Stéphane Ronxin à la réalisation.
France Inter. Le 13-14.
13h51, c'est la France et le vendredi, c'est avec vous, Jean-Baptiste René du quotidien L'Équipe. Alors on va partir en Haute-Savoie pour redécouvrir une côte a priori banale mais qui est entrée dans l'histoire du cyclisme.
Il sera aux alentours de 16h50 quand les coureurs du Critérium du Dauphiné se présenteront tout à l'heure au pied de la côte de Domancy. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, les gros bras du peloton aligné sur cette épreuve qui sert d'échauffement au Tour de France, vont s'expliquer dans cette difficulté située à 25 km de Chamonix. Sur le papier, cette ascension a tout pour se faire écraser par la renommée de sommets qui ont fait la légende du cyclisme, l'Alpe d'Huez, le Tourmalet, le Ventoux, liste évidemment non exhaustive. Avec 2,7 km de longueur, une pente moyenne de 8,5%, une arrivée à même pas 780 mètres d'altitude, la côte de Domancy, classée en deuxième catégorie sur l'échelle des difficultés, est un aimable divertissement pour les mollets les plus affûtés. Cela fait pourtant 25 ans qu'elle est entrée au panthéon du cyclisme hexagonal par la grâce de celui qui a même donné son nom à cette route, comme l'indique maintenant un panneau installé au bord de la chaussée.
Et vous voulez parler bien sûr de Bernard Hinault.
Et oui, le 31 août 1980, le Breton signe l'une de ses plus grandes performances en remportant son premier et unique titre de champion du monde. Cette année-là, les mondiaux ont lieu à Sallanches et le circuit dessiné par les organisateurs emprunte la côte de Domancy que les coureurs vont devoir gravir 20 fois. Un menu indigeste pour le commun des cyclistes, mais Hinault racontera plus tard « Dès que j'ai vu le parcours, je me suis dit, il est pour moi ». Le matin de l'épreuve, celui qui est déjà double vainqueur du Tour de France dit aussi à ses coéquipiers « Contrôler jusqu'à mi-course, après je me débrouille ». La suite se résume à un récital de Bernard Hinault et à une longue souffrance de ses adversaires qui sautent un à un. Dans la dernière ascension de Domancy, ils ne sont plus que deux à fendre une foule de 150 000 personnes, Hino et l'Italien Baron Kelly, que le Français va laisser sur place grâce à une attaque dans les derniers hectomètres. Après 268 km de course, seulement 15 participants franchissent la ligne d'un championnat du monde considéré comme l'un des plus durs de l'histoire.
Et la bonne nouvelle, si l'on peut dire, c'est que le peloton va remettre ça en 2027.
Oui, 47 ans après, les mondiaux vont revenir à Sallanches et la côte de Domancy sera évidemment au programme. Comme en 1980, les coureurs la graviront 20 fois, car c'est sur la durée que cette ascension produit ses effets. Associé à ce lieu pour l'éternité, Bernard Hinault a été nommé ambassadeur de ces championnats du monde et en avril dernier, il est revenu sur les lieux de son exploit, porté par ses jambes de 70 ans et un vélo électrique, bien utile dans les passages les plus raides, à 15%. Si vous en avez l'occasion, jetez donc un œil au passage des coureurs du Dauphiné cet après-midi, car cette côte ne figure pas si souvent au menu du Tour. La dernière fois, c'était en 2023, lors d'un contre-la-montre écrabouillé par Vingegaard, vainqueur avec 2 minutes d'avance sur Pogacar. Les coureurs français, eux, connaissent le programme pour rivaliser avec Hinault dans la mémoire collective. Gagner dans 2 ans à Sallanches en passant par la côte de Domancy.
Merci Jean-Baptiste René du quotidien L'Équipe et de C'est la France. C'est une chanson, c'est le DJ Moziman que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Il est aussi compositeur et chanteur et il sera en concert demain soir à la Cité de la Mer de Cherbourg. Un concert de 7 heures avec d'autres pointures de l'électro-française, notamment Bob Sinclair. Mais ce n'est pas de la musique électro qu'il a souhaité que l'on écoute, non. Moziman m'a parlé de Vincent Delerme.
Vincent Delerme, pour moi, c'est la Madeleine de Proust par excellence. C'est les premiers albums de chevet que j'ai à l'âge de 15 ans. Je suis en train de passer mon BEPC que j'ai déjà raté une année. Et j'écoute le premier album de Vincent Delerme qui s'appelle très simplement Vincent Delerme. Je connais toutes les chansons par cœur. Et c'est ma rencontre avec les mots, les mélodies. Il est parfois moqué, Vincent Delerme, par son timbre de voix si particulier. Et parfois, on a tendance à penser que la mélodie est inexistante, là où pour mes oreilles, elle est omniprésente. Et je me suis rendu compte que dans ma manière de composer pour les autres, que ce soit pour des artistes comme Grand Corps Malade ou Louane, dans des artistes plus variétés contemporaines, eh ben, je retrouvais des jeux inspirés de Vincent Delerme du premier album.
Donc cet album, vous l'avez énormément écouté ?
Énormément.
Et les suivants aussi ?
Et les suivants aussi, bien sûr. Les suivants aussi. En fait, Vincent Delerme, il réussit à faire de l'extraordinaire avec de l'ordinaire. Et c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. C'est des petites scènes de la vie du quotidien qui nous amènent ailleurs.
À l'entrée du zoo, tu sais, j'attends des jumeaux. J'espère qu'il y aura des éléphants. Ça c'est des genres de wapiti. Pour l'instant, je vais encore rien dire. Et devant la cage des gibbons. Ah bon.
Alors cette chanson, Frédéric, c'est La Vipère du Gabon. Elle est sortie en 2002.
Sur le premier album de Vincent Delerme, cet album qu'a tant écouté Moziman.
Il y a cette dualité entre ces deux amis qui discutent dans ce zoo et qui se font des confessions intimes de l'arrivée de jumeaux. Et ça se passe entre la vipère du Gabon et puis ça se passe entre les éléphants. Et il y a cette simplicité parce que ce qu'il raconte finalement est extrêmement simple. Mais ça nous fait une espèce de témoignage social, sociologique presque, de ce qui se passe dans nos vies. Et il a réussi à nous décrire une scène du quotidien tout à fait, somme toute, banale, qui nous émerveille, qui, moi, m'émerveille.
Est-ce que vous, au moment où vous l'avez découvert, vous vous êtes senti une forme de proximité avec lui ? Est-ce qu'il vous est apparu un peu comme un grand cousin, par exemple ?
En fait, quelque part, Vincent Delerme représentait à ce moment de ma vie peut-être le père que j'avais pas à ce moment-là. On se raccroche à des idées, quand on est plus jeune, on se raccroche à des héros du quotidien. Et je sais qu'à cette époque-là, mes amis voulaient être footballeurs ou pompiers ou policiers ou super-héros. Moi, je voulais être sur scène. Et à ce moment-là, Vincent Delerme représentait ça. C'est-à-dire faire passer des idées à travers des mots, à travers des mélodies, quel que soit le timbre, quelle que soit la manière.
Putain, j'ai horreur des vautours.
c'était pas pour. C'est pas un vautour, c'est un condor des Cévennes. Même s'il se casse, je les garde quand même.
Vous l'avez déjà rencontré, Vincent Delerme ?
Je l'ai jamais rencontré. Je suis allé le voir quasiment à tous ses concerts, de tous ses albums. J'ai déjà pris mes places pour aller le voir au mois de mars. Et attends, c'est parce que j'y vais tout seul en plus. Parce que personne ne veut venir avec moi. J'ai pris ma place tout seul. Mais je suis fasciné par l'artiste. Je rêverais de faire un album pour lui. Les deux artistes que j'écoutais quand j'étais gamin, c'était Vincent Delerme et Grand Corps Malade. Grand Corps Malade, entre-temps, j'ai eu le temps de faire deux albums pour lui, dont l'album Mesdames, qui a extrêmement bien marché et dont on est très fiers. Pour boucler la boucle, il faudrait que je travaille avec Vincent Delerme.
L'appel est lancé.
L'appel est lancé.
C'est pas impossible ?
Non, c'est pas impossible. Bon, il vient de sortir un album, là. On va peut-être pas en sortir un deuxième tout de suite. Mais non, mais j'aimerais beaucoup, ouais, bien sûr. Je croise les doigts.
Devant la vipère du Gabon.
Vipère du Gabon, c'était donc Frédéric, le choix du DJ Moziman.
Moziman à l'affiche du concert de la Liberté qui aura lieu demain soir à Cherbourg.